l'ego, grand sujet que je voulais aborder aujourd'hui, qui est assez, qui est paradoxalement beaucoup mis de côté, mais en même temps qui est omniprésent. C'est pour ça que je voulais en parler, c'est marrant, ce truc, cette volonté de mettre de côté cette réflexion sur l'ego, alors qu'en réalité l'ego c'est quelque chose qui est hyper présent et omniprésent à la fois en nous, dans notre vie et même dans notre environnement. Alors Amine, tu nous dis la partie de nous qui va toujours vouloir nous mettre en valeur. Ouais, c'est ça. En fait, bon, le titre c'est la notion d'ego dans l'accomplissement de soi. Déjà, on va juste faire ensemble, comme je dis, ensemble, c'est vraiment, on va juste vraiment faire une réflexion ensemble, hein, c'est pas du tout une conférence. J'ai pas préparé, j'ai juste une fiche avec des mots-clés, c'est tout. J'ai rien préparé. On va vraiment faire ça ensemble. Donc, l'ego, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à contrôler. Voilà. En fait, déjà, on va définir l'ego et l'accomplissement de soi. Comme ça, on va avoir les mêmes définitions. L'ego, en fait, il y a deux types de définitions. Vous allez avoir la définition plutôt des psychologues, des psychanalystes, des psychothérapeutes. Ils vont voir l'ego comme le moi. Ils appellent le moi. Ce que Freud appelait le moi. C'est-à-dire, la représentation qu'on a de nous. Ok? Mais dans la spiritualité, ça va plus être cette partie un peu sombre. Cette partie un peu sombre c'est l'âme charnelle, quoi. Comme t'as dit Amine, la partie de nous-mêmes qui va toujours vouloir nous mettre en valeur. Voilà. Et du coup, Amir aussi, tu as dit, l'ego, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à contrôler. Voilà. Ça va plus être les spirituels. Ceux qui vont être dans la spiritualité, ils vont plus avoir cette définition. D'accord? On va même parler, en fait, d'ego positif et d'ego négatif. En fonction de quoi? L'ego positif, ça va être plus cette partie de nous qui va nous dire, bah, en gros, t'es le meilleur, t'es le boss, tu es meilleur que les autres, tu es supérieur aux autres. Et l'ego négatif aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire bah je suis nul, j'arriverai à rien, j'arriverai pas à faire, je suis pas fait pour ça, je suis qu'une personne vouée à l'échec, tout ça. Ça c'est l'ego négatif. Et dans les deux cas, dans les spiritualités en général, c'est quelque chose qui est pas bien. L'idée c'est d'avoir un équilibre d'avoir une estime de soi qui est plus proche de la réalité. Ça, c'est ce qui va nous permettre, en tout cas selon la spiritualité, d'être loin des extrêmes, de pas avoir une estime de soi qui est biaisée. Donc en fait, on a parlé d'estime de soi qui est biaisée. En fait, on parle d'illusion. D'illusion, et même on va voir souvent, les psychanalystes, ils vont parler de projection. Et en fait, c'est ça. Souvent, on va dire qu'en fait, l'ego, c'est une projection d'une idée qu'on se fait. On a tous l'image en tête, dans les films ou même dans la réalité, quelqu'un croise quelqu'un et lui dit « Ah, lui, j'aime pas. Lui, j'aime pas. Je sais pas pourquoi je l'aime pas. » Ben ça, c'est que de l'ego en réalité. Pourquoi ? C'est l'ego qui a fait une projection. Peut-être qu'il a vu par exemple la personne qui avait le même pull, mais que sur lui ça lui va mieux. Et bah ça l'a touché dans son ego. Et l'ego, bah du coup il a fait une projection. Il a dit bah lui je l'aime pas. Ou alors par exemple quelqu'un qui va dire quelque chose, par exemple avec une certaine certitude, mais qui va dire la réalité. Et on va dire bah lui il est orgueilleux. Alors pas du tout peut-être. C'est juste notre ego qui va faire des projections. Et l'ego il va faire des projections en fonction de quoi? On va pas avoir les mêmes projections. On va avoir des projections en fonction de notre vécu et de nos souffrances personnelles. Par exemple, moi, si j'étais quelqu'un, c'est pas vrai, hein, je prends un exemple. Si j'étais quelqu'un qui a toujours été rabaissé, par exemple. Alors, on a des gens, par exemple, ils ont été toujours rabaissés, ils ont toujours été mis de côté. Et ben souvent, ces gens-là, plus tard, quand ils vont avoir du pouvoir, s'ils sont amenés à avoir du pouvoir, ils vont entrer dans une catégorie. Bon, j'aime pas trop les catégories, mais bon, ils appellent ça les pervers narcissiques. C'est-à-dire les gens qui ont tendance toujours à rabaisser les gens, toujours. parce que c'est une souffrance, c'est une projection qu'ils ont, c'est une souffrance en eux-mêmes. Il y a des gens aussi, ils vont toujours, ça va être l'inverse, ils vont toujours avoir peur et toujours vouloir valoriser l'autre. Notamment chez des femmes qui ont subi des violences conjugales, on va beaucoup retrouver ça. Les femmes qui ont vécu malheureusement des viols ou des violences conjugales, et ben souvent, elles mettent un temps avant, le temps de construction, et ben elles vont toujours être là, être avoir peur, pas tous, hein, pas toutes, mais elles vont avoir peur et elles vont tendance à, cette peur elle va être décuplée en fait. Et du coup, ça va se mettre à, manifester comment? En valorisant toujours l'autre, en disant bah non mais moi je suis nul, j'y arrive pas, laisse tomber, je... voilà. Et ça en fait c'est que l'ego, ça c'est un ego négatif par exemple. Donc c'est vraiment une projection d'ego. Maintenant dans la spiritualité, on a dit l'ego c'est cette chose qui nous pousse vers le bas, qui nous pousse vers le bas. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est une discussion, c'est un échange, hein, donc essayez de participer un maximum, et même vous pouvez rentrer dans le live, hein. Je peux vous inviter, donc vous me dites juste, vous m'envoyez une invitation, vous me le dites, et je vous invite si vous voulez ajouter quelque chose ou faire une remarque, il n'y a pas de souci. Et l'idée, comme tu le disais Amir, c'était de contrôler l'ego dans la spiritualité. Dans toutes les spiritualités, il y a ça. Dans les trois religions, monothéistes, chez les bouddhistes, ils vont parler de l'ego un peu de manière différente, mais aussi, ils vont parler de cette capacité de réduire l'ego, de le maîtriser dans toutes les spiritualités. Et comment en fait, chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode, chaque spiritualité a sa méthode. Maintenant, j'aimerais juste partager un truc qui est intéressant, c'est que dans plusieurs spiritualités, et notamment dans les spiritualités monothéistes, on a des paroles de saints qui nous disent que, en fait, l'ego, c'est quelque chose qui est certes mal, parce que c'est ce qui nous pousse vers le moi, l'amour du moi, mais, en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir évoluer. Si on n'avait pas l'ego, si on n'avait pas d'ego, à notre naissance, c'est-à-dire à notre puberté, lorsqu'on arrive à un âge de conscience, si on n'avait pas d'ego, on serait des êtres qui seraient pas du tout réalisés, qui seraient même qu'on n'aurait pas de, on serait des êtres un peu proches des animaux. On n'aurait pas ce côté intéressant qu'est l'être humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce phénomène-là, il est présent dans la nature. Pour évoluer, pour construire, on est obligé de déconstruire. Pour aller de l'avant, on est obligé d'avoir une force qui va nous pousser à l'arrière. Ça, c'est présent dans la nature, c'est un phénomène naturel. Par exemple, l'épreuve. L'épreuve, l'être humain, aujourd'hui, c'est un fait. Les gens les plus sages d'une civilisation et de toute l'humanité, si on prend tous les hommes de toute l'humanité, les gens les plus sages, c'est qui? C'est les gens qui ont le plus souffert, en général. Les gens qui ont le plus souffert, qui ont le plus galéré dans la vie, les gens qui ont le plus vu d'épreuves, et ben c'est eux les plus sages. Pourquoi? Parce que justement, ils ont tellement eu cette force qui les poussait vers l'arrière que ils ont dû se mettre à niveau. C'est pareil pour la musculation. Là, c'est dans le métaphysique. On va rentrer dans le physique. La musculation, c'est quoi? Pour prendre de la masse, on doit faire un mouvement. On doit demander aux muscles de faire un mouvement intense pour pouvoir détruire les fibres musculaires, pour que le corps ensuite il puisse en reconstruire plus encore, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à ce que le muscle, il prenne de la masse, il prenne du volume. Si on détruit pas les fibres, si on les détruit pas, s'il n'y a pas cette force qui va venir détruire les fibres, il n'y a pas de prise de masse. Et pour les personnes qui sont un peu plus maison et casanière, il y a aussi un exemple qui est marrant, c'est le fil d'aspirateur. Pour pouvoir l'enrouler, pour que le fil puisse rentrer dans l'aspirateur, il faut le tirer. On le tire un peu et il rentre tout seul, de manière harmonieuse. Sinon, il rentre pas. Toujours, en fait, il y a une force inverse qu'il faut faire. Et l'ego, c'est ça. L'ego, elle nous pousse vers l'arrière. L'ego, il nous pousse vers l'arrière pour qu'on puisse, nous, après, faire l'effort. Donc, c'est pas facile, mais quand on fait l'effort, eh ben, on dépasse cet ego. Alors, il y a un confrère arabophone qui nous demande d'expliciter ça en arabe. Assi Ayoub, on va parler de nefs. Qu'est-ce qu'est nefs? Kifash t'aidina ou kifash t'amrna ou la mit'amrnash? On t'a l'air à faire des choses. راك معلم في هذا المجال. donc voilà. Après, comment défaire son ego? On va dire les spiritualités qui sont pas forcément liées à une étiquette, c'est-à-dire par exemple on a plein de coachs qui disent je suis coach en spiritualité, c'est pas des coachs qui vont te dire je suis bouddhiste ou je suis musulman, c'est des coachs qui vont voilà qui va vraiment partager des choses sur la vie, dans le développement personnel, dans l'accomplissement de soi. Bah, déjà, la première chose, c'est d'être déjà conscient. Conscient qu'on a un ego. Conscient que toutes mes réactions, et tous mes propos, et tout ce que je vais dire ou faire, elles peuvent être influencées par des choses qui sont mauvaises. Ça veut dire, demain, si je me mets en colère, faut que je sois conscient que demain, si je me mets en colère, peut-être que cette colère va être illégitime. Peut-être que cette colère, elle va être à l'origine d'une injustice. Pourquoi ? Parce que cette colère, elle a été motivée et nourrie par un sentiment, je sais pas, de jalousie ou de vanité ou de cupidité ou alors d'orgueil. C'est déjà être conscient de ça et de dédramatiser la chose. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est pour ça que je le partage, mais ça revient beaucoup chez les coachs, les grands coachs Tony Robbins. Tim Ferriss, David Laroche pour les francophones, tout ça, c'est vraiment, il parle de ça. Et en fait, c'est quelque chose qui est universel. Et surtout, être conscient d'une chose qui est propre à notre époque. Je sais pas si vous êtes d'accord, vous, les auditeurs et les auditrices, mais notre ego, il est constamment alimenté et nourri dans notre société, parce que justement, on est typiquement aujourd'hui dans la société de l'ego, du moi. Par exemple, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est de l'ego. Les réseaux sociaux, c'est j'ai eu 100 j'aime, l'autre il a eu 2000 vues, l'autre il a eu 11 millions de vues, l'autre il a 4000 abonnés, l'autre il en a 2. Et en fait, c'est de l'ego. C'est de l'ego parce que ce sentiment que vous allez avoir quand une publication à vous, elle va atteindre, je sais pas, peut-être 150 vues, 150 j'aime ou 200 j'aime, mais ça, c'est étudié par les réseaux sociaux pour nourrir votre ego, pour ensuite créer une addiction. C'est étudié, c'est des choses qui sont étudiées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas meilleure chose pour fidéliser un être humain que de l'attaquer dans son émotionnel et dans son ego. Facebook, Instagram, tout ça, pour nous faire consommer leur produit, qui est l'application, ils vont pas nous expliquer avec Instagram vous allez pouvoir faire ci, avec Instagram vous allez pouvoir faire ça, vous allez pouvoir partager ci. Non, ils vont nous dire avec Instagram vous allez devenir l'influenceur, vous allez devenir le mec ou la femme qui va vraiment influencer les gens, qui va devenir le plus compétent dans votre domaine, vous allez épater vos amis. Ça, c'est quoi? C'est une technique de marketing pour nourrir l'ego. Et ça, c'est présent dans tout le marketing. C'est la base du marketing. Moi, pour avoir fait quelques formations de marketing, c'est la première chose qu'on t'apprend. On te dit, ça sert à rien d'expliquer à l'autre, si tu veux le convaincre, si tu veux convaincre quelqu'un, faut l'attaquer dans ses émotions. Dans tout. Ça, c'est aussi une règle. Si vous voulez convaincre quelqu'un, il faut l'attaquer dans ses émotions. Ça sert à rien de dire à quelqu'un, écoute, viens avec moi, par exemple en période de guerre, viens avec moi parce que on a besoin de soldats. Non, mais si tu lui dis, écoute, viens, tu vas sauver tes enfants, tu vas sauver ta femme, tu vas sauver ta mère, ton père. Cette mission-là, elle est beaucoup plus importante que ce que tu crois. Là, tu l'as touché dans l'émotionnel, dans son émotion. Et là, la personne, tu l'as touché. Donc il y a l'émotionnel et l'ego. Aussi, par exemple, dans notre vie tous les jours, dans la SAP, par exemple. Pourquoi ? Parce que par exemple, Vous allez vous habiller, on va vous dire, ah, il est trop bien ce jean. Ouais, elle est belle cette chemise. On va dire, ah, pas mal la coupe, hein. Ou alors, par exemple, on va se couper les cheveux. Ou alors, on va acheter un nouveau vêtement. Et voilà, l'ego. L'ego, il va attendre quoi? Il va attendre que, bah, les gens s'en rendent compte. C'est comme ça, c'est en nous. Ah, t'as capté la coupe, là, merci, toi. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est l'ego aussi. Il veut avoir les projecteurs sur lui. Dans les pubs, bah, on n'en parle même pas. Les pubs, c'est ça. Les pubs aujourd'hui pour vendre, c'est quoi? C'est acheter la voiture grâce à laquelle vous allez devenir le mec le plus populaire de votre ville. En gros, hein, je fais une caricature, mais c'est ça. Le mec le plus populaire, le mec le plus balèze, mais c'est ça. Et aussi, pourquoi il y a ce phénomène de selfie qui est hyper entretenu par les réseaux sociaux, ce phénomène des filtres. On en parle des filtres. Les filtres Snap, les filtres Snap, les filtres... Là, je crois que je peux en mettre en plus des filtres. Là, je sais pas si je peux en mettre. Je crois que je peux en mettre en plus des filtres. Les filtres qui rendent beau, là. Voilà. Voilà, des filtres comme ça, là. Ben, tout ça, c'est pour rendre beau. C'est pour rendre la personne. Voilà, voilà. Vous voyez les filtres comme ça, là? Et ben, tout ça, c'est pour entretenir l'ego. Tout ça, c'est fait exprès, c'est étudié pour que on se sente beau et qu'on se sente valorisé et qu'on continue à utiliser l'application. Voilà. Je sais plus comment l'enlever. Ah non, c'est bon. Donc on est vraiment stimulé tout le temps. Mais vraiment dans tout. Et ça, c'est le monde extérieur. On parle même pas de nous en nous. On parle même pas de nous. Comment nous, notre ego, il nous piège. Mais on est alimenté par l'ego. C'est ça que, par exemple, dans la spiritualité monothéiste, et notamment aussi dans l'islam, on va dire qu'en fait, le diable ne va pas s'attaquer à l'intellect de l'homme. On dit que le diable chuchote des mauvais conseils. En fait, le diable, il va pas s'attaquer à l'intellect, il va s'attaquer à l'ego. Et l'ego, ensuite, il va avoir un impact sur tout. Donc, déjà, prendre du recul sur ça, je pense. Je pense dire, bon, voilà, je suis un être humain, je peux faire des mauvais choix, je peux faire des choses très graves. Aujourd'hui, pourquoi, malheureusement, on en parle, hein, bon. Pourquoi aujourd'hui on a malheureusement des viols, des meurtres, on a des choses abominables qui se passent? En réalité, les gens, ils sont pas mauvais. C'est l'ego. Quand on passe certains caps, on se rend pas compte, nous tous, hein. Petit à petit, on se rend pas compte et on fait des choses qui nous paraissent banales, alors que c'est incroyable, c'est grave de le faire. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui doucement a banalisé la chose. Et un meurtrier, quand il tue, pour lui c'est rien tuer. Il a banalisé ça. Pourquoi? Son ego l'a piégé. Enfin, il a fait comprendre que c'est pas grand chose en réalité. C'est habitué à ça. Ça, c'est un piège de l'ego. Donc aussi, il y a une chose, mais c'est vraiment ceux qui sont très spirituels. Hein. Moi, par exemple, j'en parle, mais je suis pas du tout. Je sais que il va falloir des années-lumière pour être à ce niveau. C'est de savoir avoir le recul et de savoir quand est-ce que ma réaction a été saine, qu'elle était motivée par quelque chose de sain, et quand est-ce que c'était de l'ego. Par exemple, je suis sorti dehors et je vois une femme se faire agresser. Donc moi, je me dirige, je vais voir l'homme et je commence à crier pour défendre la femme. Et je commence même à la défendre et à avoir un acte héroïque. Certes, je me suis mis en colère. Certes, j'ai fait quelque chose de bien, qui a été de défendre une femme. Mais l'idée, la question, c'est pourquoi je l'ai fait. Et là, on rejoint la phrase qui dit « Les actes ne valent que par leur intention ». Pourquoi je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait parce que vraiment, cette agression, je l'ai vécue comme une injustice intérieure et j'ai pas pu patienter, et la femme, elle m'a vraiment fait pitié, et je l'ai défendue, ou alors je l'ai fait, bah, pour ma légende personnelle aussi. C'est mélangé souvent, hein, c'est nuancé, hein. C'est un peu sain et aussi un peu mélangé, un peu de l'ego. Ou alors je l'ai fait pour que, avoir la reconnaissance de la femme, pour que les gens me voient, ou alors pour me prouver que, voilà, que je suis fort en bagarre, peut-être, ou pour me prouver que, voilà, je suis capable de gérer ça. Et l'ego, c'est ça toute la journée. toute la journée, faut juste s'en rendre compte, faut juste se poser et s'en rendre compte. Mais toute la journée, on est dans ça. Pourquoi je fais ça? C'est pour ça qu'il y avait un grand saint qui disait, toute ma vie, je n'ai cessé de me remettre en question sur tout ce que je fais, pour savoir si c'est l'ego ou pas. Et ça, ça demande vraiment, vraiment une vraie compétence spirituelle. Indépendamment de toute religion spiritualité, ça demande une vraie compétence spirituelle que de savoir si ma réaction elle a été motivée par une raison saine ou alors quelque chose de malsain. Et ça c'est, il y a plein d'outils, chacun a ses outils, chacun a sa spiritualité, chaque être humain qui porte un intérêt pour la spiritualité a ses propres outils, mais c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand je me mets en colère, je me mets en colère pour une bonne raison. Et après, je redescends. À la base, la colère, pour parler un peu de la colère, à la base, la colère, c'est un outil. C'est un outil pour pouvoir faire passer un message. Lorsque le fait de le partager calmement, ça marche pas. Voilà. C'est comme le massage cardiaque. On fait le massage cardiaque avec la main. Si ça marche pas, c'est fibrillateur. On envoie une grosse charge électrique à la base, et après on le range. Une fois que le cœur il repart, on le range. C'est tout. Le défibrillateur, on l'utilise plus. Bah nous, quand on se met en colère, le signe d'une colère qui est malsaine, c'est une colère dont la courbe elle monte, et elle reste dans le temps. Le signe d'une colère saine, elle monte, elle descend. Hop. Je monte, je me mets en colère, je dis ce que j'ai à dire, puis je redescends. Et je redeviens normal après. Quand on voit les sages, peut-être on a toujours rencontré des personnes sages, des personnes âgées, des personnes qui sont dotées d'une sagesse un peu spécifique. Moi, j'en ai rencontré, quand je vois leur colère, c'est une colère comme ça. La courbe a fait hop, elle monte et elle descend. Parce que son objectif, c'est, lui, il est pas en colère comme on l'entend nous. C'est-à-dire, il a la rage, il a la haine. Non. Il est en colère. Pour une chose, certes. Mais juste pour cette chose-là bien précise. Ça, c'est le signe d'une colère saine. Et voilà. Et savoir quand, pourquoi je me suis mis en colère, par exemple. Pourquoi je me suis mis en colère aujourd'hui? Pourquoi j'ai eu cette réaction? Pourquoi j'ai eu besoin de dire que ça, c'était moi qui l'avais fait? Par exemple, dans l'associatif, pour les gens qui sont associatifs, ça, c'est un très très bon outil d'associatif pour mettre son ego à l'épreuve. Ah, la fiche, c'est qui l'a faite? Ah, c'est moi, ok. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? C'est moi qui ai invité. C'est moi qui a... Ça, moi, c'est l'ego. Alors, on l'a tous. L'idée, c'est de prendre conscience. Maintenant, après, il y a quelque chose que tout le monde est d'accord. Vraiment, tout le monde est d'accord. Même les gens qui sont agnostiques, qui n'ont pas de spiritualité, entre guillemets, sous une étiquette, ils sont tous d'accord sur une chose. La méditation. La méditation, c'est la base. Se poser avec soi-même. Après, chacun a ses pratiques. Alors, le juif, quand il va méditer, il va réciter la Torah, il va faire des invocations spécifiques. Les chrétiens, pareil. Les bouddhistes, pareil. Les musulmans, pareil. Mais la base, l'objectif, c'est quoi? C'est le même. C'est la méditation pour prendre du recul. Prendre du recul, justement, sur ça, sur cet ego. Et en fait, l'ego, il déteste ça. Et je pense que si vous avez des gens, si vous êtes des personnes qui méditez, je sais pas, mais ça, c'est un fait connu, pour avoir parlé avec beaucoup de gens qui méditent, et vous allez être en forme toute la journée, quand ça va être l'heure de méditer, et vous allez avoir envie de dormir, comme par hasard. C'est-à-dire, on est en forme toute la journée, mais quand c'est le moment de se remettre en question, de, entre guillemets, cerner l'ego et de le bloquer, et de commencer à le mettre à l'épreuve, et de sortir de notre zone de confort, comme par hasard on a envie de dormir, ou alors comme par hasard on a envie de faire un truc, on a envie de bouger. Ça, c'est l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego, il a un effet sur notre corps. Et ça, c'est quelque chose qui est très soutenu dans les spiritualités aussi. Toutes. L'ego, il a un effet sur notre corps. L'ego, c'est pas quelque chose qui est en nous et qui vit en nous, c'est tout, fait sa vie tout seul. Non. Notre ego, il est en nous. Il est tout le temps en nous. Dès la première seconde où je vais me réveiller, même nos rêves, peut-être qu'ils sont influencés par notre ego. Donc, il est en nous. Il communique avec l'extérieur, donc il reçoit l'énergie de l'extérieur, il donne à l'extérieur, et il a un effet sur notre corps aussi. Ça, c'est quelque chose que, si vous vous penchez dessus, vous allez le voir, c'est quelque chose de très connu. Et aussi, le corps a un effet sur notre ego. Et là, c'est une bonne transition parce qu'on parle du Ramadan. On est dans une période de jeûne. Et ben, pourquoi le jeûne? Et ben, on dit que, en islam, on dit par exemple, le diable, et l'ego ont beaucoup moins d'influence sur l'être humain lorsqu'il jeûne. Quoi? Il y a même une phrase, je ne trouve pas, qui dit que Satan circule dans les veines de l'être humain. Et il connaît bien l'être humain, en fait. Et en fait, le fait de jeûner, ça va réduire le volume de, lorsque le, comme le corps il est en ralenti, ça va réduire le volume de diamètre de vaisseaux sanguins, et du coup Satan, en gros, il peut moins circuler. C'est une image, mais c'est vrai. À part les personnes qui ont déjà un déséquilibre dans leur nourriture, dans leur manière de vivre, c'est-à-dire voilà, les fumeurs par exemple sont très habitués à fumer, ou alors c'est des gens qui mangent beaucoup, sont en déséquilibre. Eux, lorsqu'ils vont jeûner, ils vont péter un plomb. On le voit dans les pays maghrébins, ça chauffe bien pendant le Ramadan dans la rue. Mais bon, je caricature. Hein. Mais en général, lorsque vous jeûnez, vous êtes plus calme, vous êtes plus concentré et vous avez moins de réactions fortes. Pourquoi le corps il est au ralenti. Il n'a pas de surplus d'énergie. Il a juste l'énergie qu'il lui faut pour pouvoir faire des bonnes choses, des choses saines. Et l'ego, il n'a pas assez d'énergie pour le calmer. C'est comme si, en fait, on enferme un lion et on l'arrête de lui donner à manger. Si j'enferme un lion et je lui donne que les meilleurs mets, la meilleure nourriture, il va avoir l'énergie, il va devenir sauvage. Dès qu'il va avoir une possibilité de sortir et de manger tout le monde, il va le faire. Mais si je l'affame, il va devenir plus faible de plus en plus. Et l'idée, c'est ça, en fait, dans la spiritualité, c'est d'affamer son ego, de fermer toutes les portes qui puissent pour empêcher qu'il s'exprime. Et c'est ce qu'ont fait les sages, en fait. Encore une fois, dans toute la spiritualité, c'est ce qu'ont fait les sages. Les sages, pourquoi on parle d'ascétisme? Pourquoi on parle de gens qui ont quitté, entre guillemets, la vie sociétale pour se retirer, pour faire des retraites spirituelles, où ils ont choisi la vie d'ascétisme, de pauvreté? Pourquoi tout ça? C'est pour casser l'ego. Tout ça, c'est pour casser l'ego. Notamment Ibn Arabi, c'est ça. Ibn Arabi conseillait à ses disciples toujours ce côté-là où il fallait casser l'ego. Abu Hamid al-Razali aussi, c'était ça. Il parle même de l'qital. On parle en arabe, l'qital, c'est le fait de lutter, de mener une guerre contre l'ego. L'qital, tuer. Donc, qatl al-nafs, qatl al-nufus, c'est ça. C'est vraiment le fait de tuer son ego, de la dresser, pour pouvoir arriver à un état où tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que j'entreprends, ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne motivation. Je sais que lorsque j'arrive à ce niveau-là, lorsque je vais parler, ça va être pour une bonne raison. Lorsque je vais m'énerver, ça va être aussi pour une bonne raison. Et ça, c'est un niveau, c'est le niveau qu'on appelle le niveau des saints, quoi. Les gens qui sont détachés de ça. Et en fait, on n'est jamais tranquille. Et on dit même que, même lorsqu'on arrive à dresser son ego, il reste, bon, ça c'est dans la spiritualité où on croit en Dieu, forcément. Notamment dans l'islam, on dit en fait, on n'est jamais tranquille. Pourquoi? Parce qu'on se bat contre notre ego toute la vie. Et lorsqu'on arrive à détruire cet ego, il reste qui? Il reste que nous et Dieu. Et là, c'est très difficile aussi de rester avec Dieu. Ce qu'on appelle en arabe makrullah, la ruse de Dieu, elle est difficile au quotidien. Parce que Dieu, il met à l'épreuve toujours. Et même quand on casse l'ego, quand on arrive à détruire l'ego, c'est pas fini. C'est pas ça la finalité dans les spiritualités monothéistes. La finalité, c'est d'arriver à Dieu. Mais on n'arrive jamais à Dieu parce que Dieu est infini. Donc le connaître un maximum. Et Dieu va toujours faire cette force qu'on parlait, cette force qui va nous retenir en arrière pour pouvoir évoluer encore plus. C'est pour ça les prophètes, par exemple, si on rentre dans le dogme des religions monothéistes, les prophètes, ils n'avaient plus d'ego, c'était des saints, ils n'avaient plus d'ego. C'est un fait, c'était des prophètes, ils étaient purs. Mais malgré ça, ils étaient éprouvés. Et ils subissaient, entre guillemets, la ruse de Dieu. Lorsque Moïse, on lui dit, tu prends ton peuple, des femmes, des enfants, des vieillards, et tu vas devant la mer sans aucune protection, voilà. Et l'histoire la plus flagrante, c'est l'histoire de Moïse avec le verdoyant. Moïse avec le verdoyant, le crédit, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est Moïse, Dieu lui a demandé, entre guillemets, c'est qui le plus savant. Moïse, ben, il a répondu moi, mais pas avec l'ego. Il n'a pas répondu avec l'ego, il a répondu avec, avec sincérité. Il dit, bah, c'est normal, je suis le messager. Et j'ai un contact direct avec Dieu, j'ai des miracles, j'ai accès quand même à un certain nombre de choses, je pense, c'est moi. Dieu, lui, en fait, lui a fait connaître, lui a fait faire une rencontre, le verdoyant, le khed, qui lui a fait comprendre qu'il y avait encore plus sage que lui. Et dans le Coran, c'est marrant parce que le khed, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas son vrai nom, on ne sait pas comment il est, on ne sait pas d'où il vient, mais on sait qu'il a existé à l'époque de Moïse, et il est venu pour montrer à Moïse qu'il n'est pas le plus sage et que la science de Dieu, elle est infinie. Et notamment, il a fait des actes, ce verdoyant a fait des actes, en fait, il a dit à Moïse, tu peux me suivre, c'est la demande de Moïse, il a dit, tu peux me suivre, mais à une condition, tu ne poses aucune question. Moïse a dit oui. Et en fait, Khidr, le verdoyant, a fait toute une série d'actes, notamment trois actes, qui vont y aller contre les paradigmes et les manières de voir de Moïse. Et Moïse va se révolter, et à la troisième fois, à chaque fois, le verdoyant lui dit, arrête de poser des questions. Et à la troisième fois, il lui a dit, c'est la dernière fois, c'est bon. Tu as posé trop de questions. Et après, il lui a expliqué le sens de ses actes, et après, Moïse a compris. Parce que lui, il était dans une autre dimension encore, il avait encore un autre niveau de compréhension. Et en fait, c'est ça. C'est un peu ça. Et en fait, voilà, c'est un peu aussi ce côté, qui est un peu intéressant, c'est que même en fait, quand on arrive à détruire notre ego, ça veut pas dire qu'on est arrivé, c'est pas la finalité, en fait. Mais, ça, c'est dans les hautes sphères, les spirituels, hein, des grands maîtres, tout ça, les prophètes, des grands maîtres, et pour les cheminants, ceux qui sont encore dans ce qu'on appelle le cheminement, le chemin, quoi. Mais, déjà, je pense que ça part par l'intellect, déjà. On peut commencer par l'intellect. C'est-à-dire, voilà. Je pense que tout ce qu'on disait, être conscient de cette présence de l'ego qui est en nous. Aujourd'hui, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'est ça. S'il y a une phrase à retenir aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui est dangereux. C'est un fait. C'est un fait. On le voit. Et en fait, même les gens souvent disent, mais pourquoi, si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des tsunamis, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a tout ça? Dieu, il a laissé le libre arbitre. Si Dieu nous avait pas laissé le libre arbitre, on se serait plaint de ça. Il nous a laissé le libre arbitre. Il nous a laissé notre ego, il nous a donné notre conscience, il nous a dit, faites, et je vous regarde. Donc, le problème, c'est pas, enfin, moi, je dis, en tout cas, c'est mon avis, le problème, c'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Lorsqu'on réglera notre problème avec nous-mêmes, on sera en paix avec la nature et le cosmos. Notamment, pourquoi pardonner quand on a un sage? Les sages, en général, les sages et les spirituels, ils pardonnent. Ils gardent pas de haine en eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont compris que pardonner à quelqu'un, c'est pas faire du bien à l'autre, c'est se faire du bien à soi-même. Nous, souvent, quand on dit « Ah, moi, j'ai pas de problème, par contre, lui, je lui pardonnerai jamais. » En fait, quand on dit ça, on entretient une petite haine. Certes, un feu doux, mais on entretient une haine. C'est pas facile, hein. Je suis en train de vous dire « Pardonner, c'est pas facile, hein. » Quand on est une femme qui a été violée, quand on a été quelqu'un qui a été trahi, qui a été sali, qui a été humilié, alors là, voilà, moi le premier, hein. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on pardonne, on a tendance à dire, si je lui pardonne, c'est que je lui fais du bien. C'est que je vais lui donner un honneur. Et je vais lui faire, je vais le mettre sur un piédestal. Mais non, en fait. En pardonnant, on se fait du bien à nous. Et les saints, et les gens dotés d'une spiritualité intense, ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils pardonnent. Le fait de pardonner à quelqu'un et d'avoir aucun ennemi, et d'avoir aucune haine, ça garantit la paix intérieure. Ça, c'est une réalité aussi. Ça, les gens, souvent, on entend les saints, ils disent, non, on n'a pas d'ennemis. Si je fais la guerre, c'est juste pour la cause, c'est tout. Parce qu'ils m'empêchent de faire, c'est la légitime défense, quoi, c'est tout. Mais il n'a pas de haine. Même, on voit, certains saints, en islam, carrément, ils demandent à Dieu que leur ennemi devienne leur ami. C'est-à-dire, en pleine guerre contre eux, ils font des invocations à Dieu, ils demandent à Dieu que leur ennemi, qui était en train de les tuer, devienne leur ami. Il y a une magnifique histoire aussi avec Ali, le gendre du prophète Mohammed, de l'islam, qui parlait de, qui en fait, qui était en plein champ de bataille, et qui était en corps à corps avec, avec un de ses ennemis, et il a pris le dessus, et il allait l'achever. Il allait l'achever avec son sabre. Et au moment de l'achever, cette personne qui allait tuer par Ali, lui a craché au visage. Il a craché au visage. Et à ce moment-là, Ali, il a reçu le crachat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rangé son épée et il a poussé l'homme et il est parti. Ensuite, quand on lui a demandé ensuite pourquoi tu as fait ça, il a dit, lorsque j'allais l'achever pour la cause authentique dont j'étais venu, la cause de légitime défense, la cause, donc lui aussi c'était une cause divine. On vient pour soutenir le prophète parce que c'est notre cause, on se défend. C'est une cause qui est saine. Pour défendre nos biens, pour défendre nos femmes, nos enfants qui ont été persécutés, qui ont été humiliés. C'est une légitime défense. Mais lorsque il m'a craché dessus, il a dit, j'ai eu une réaction de mon ego et j'ai eu peur que si je le tue, je le tue pas pour la bonne intention, mais je le tue parce qu'il m'a craché. Donc ça, on voit vraiment dans le champ de bataille avec l'adrénaline, tout ça, il a réussi quand même à contrôler l'ego et dire je tue pas parce qu'il m'a craché dessus. Alors qu'il aurait pu le faire. Moi, j'aurais fait. Je pense qu'on l'aurait tous fait. Mais il l'a tué. S'il fait cet acte-là, déjà, il considère que la vie est sacrée. Et il a fait ça. Il a pas tué la personne par peur que ce soit son ego qui lui dicte ça. Et ça je trouve que c'est magnifique. Voilà. Il y a aussi le principe aussi qui est très repris par les coachs et tout, c'est l'universalité. La vulnérabilité plutôt. La vulnérabilité. Pas avoir peur d'être vulnérable en fait. Souvent on n'a pas envie d'être vulnérable parce que c'est notre ego. On dit par exemple va parler en public. Non, je parle pas en public, laisse tomber. Pourquoi en fait? Pourquoi on a le trac? N'hésitez pas à partager réagir, à dire vos. À nous partager vos ennemis, hein. Vos ennemis. J'ai lu le mot ennemi. Vos réactions. Comme j'ai dit, c'est pas une conférence, hein. Je parle, mais j'attends vos réactions. Alors, la Mounière qui dit la méditation pour briser nos illusions de la vie de tous les jours. Ouais. La fatigue, grande arme de l'ego. Ouais. La fatigue, grande arme de l'ego. C'est ça. C'est 10 contre 1, l'ego. Ouais. C'est ça. D'accord avec vous. Oui, le principe de vulnérabilité. En fait, pourquoi on a le trac? En fait, c'est pareil, c'est de l'ego. On dit, je veux pas faire quelque chose de pas bien, ou de bafouer, ou de bâcler mon travail, et que les gens disent, ah, lui, il est nul. C'est de l'ego, ça, en réalité. Moi, le premier, hein. Quand je vais parler devant les gens, quand je vais jouer de la musique devant les gens, je vais chanter devant les gens, je vais avoir le trac. Le trac, c'est quoi? Souvent, hein, je dis pas que c'est, mais souvent, c'est lié. Bon, comme dit, c'est nuancé, c'est jamais soit l'ego, soit quelque chose de bien. Mais souvent, ça va être quoi? Ça va être un peu d'ego. Ouais, donc je parle bien, j'ai peur de pas bien parler, donc je sais pas. Je vais garder mon honneur. Mais se forcer à être vulnérable, et c'est souvent quand on est vulnérable qu'on gagne de la valeur aux yeux des gens. Tous les grands leaders qui ont été les meilleurs leaders du monde, qui ont réussi à avoir une grande renommée, des gens qui se sont montrés vulnérables aux yeux des gens. Parce que c'est facile, lorsqu'on est roi, par exemple, leader, on est sur sa chaise, de montrer aucun signe de faille. Ça, c'est normal, c'est facile. Et lorsqu'on est éprouvé et qu'on se met vulnérable, c'est là la réaction. Les gens vont être attentifs à ce moment-là. Comment toi, tu vas réagir? Et s'ils voient que toi, t'es pendant ta vulnérabilité, bah, tu gardes ton calme et tu t'assumes, les gens, ils vont avoir du respect. On dit, si tu parles devant les gens et t'as un trou, bah, t'as un trou. Tu le dis, c'est tout. J'ai un trou. Désolé, j'ai un trou, tu prends la rigolade, et voilà, et puis. Et les gens, ils vont apprécier ça. Plus que de stresser, ça va créer et tout ça, c'est l'ego, tout ça, c'est lié à l'ego. Donc voilà, l'idée, c'est pas de faire une grande conférence. Comme je dis, et je répète, j'avais rien préparé, hein. J'ai juste marqué des mots-clés, en fait. C'est tout. J'avais marqué ego, ego plus, ego moins, nécessaire au cheminement, épreuve, musculation, jeûne, ralenti, méditation. Et c'était que des mots-clés. Et puis, on a mené une réflexion ensemble. Donc voilà. J'espère que, voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment, c'est une phrase à retenir pour moi. C'est que l'ego, il est omniprésent et qu'il faut se penser sur cette question. L'idée, c'est de mettre la graine aujourd'hui. Poser sur cette question que je suis en train de vivre avec quelque chose en moi qui a une influence sur moi. Et ça, normalement, on ne devrait pas l'accepter. On ne devrait pas... C'est un signe de faiblesse que de dire qu'il y a quelque chose qui m'influence, mais je m'en fiche. Donc, voilà. Donc, si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Je vous laisse un peu le temps de réagir. On est entre nous. Même s'il y a des gens qui veulent rentrer dans le live. Rentrez, hein. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le live, qui veulent... Je peux inviter en fait des gens là. Quand je suis tout seul, vous pouvez rentrer dans le live. Alors, un Mounir qui nous dit « Croire que l'on peut vaincre son ego seul, c'est aussi être dans l'ego. » C'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne remarque ça. C'est vrai, c'est peut-être un piège de l'ego. Et l'ego en fait, il n'a pas de... On dit souvent, l'ego, s'il était un homme, il aurait ni foi ni loi. Dire « Moi, je peux tout seul. » Je ne demande pas l'aide. C'est vrai. D'ailleurs, dans beaucoup de spiritualité, on a, dans les spiritualités, on a un maître, en fait. On doit avoir un maître qui va nous montrer, justement, ça. Sinon, l'ego, de toute façon, si vous, ça, c'est aussi, hein, c'est une certitude que je dis, je vais l'affirmer de manière affirmative, mais ça n'engage que moi. Mais si vous voulez, vaincre votre ego tout seul, c'est une illusion. Vous ne le vaincrez jamais tout seul. Parce qu'il vous aura. L'ego, il nous connaît mieux que nous-mêmes, on se connaît. Parce que l'ego, il a accès à notre subconscient, notre inconscient, nos souffrances les plus enfouies, les trucs les plus honteux. Et il va utiliser ça, justement, dans nos réactions, dans nos colères. Il faut quelqu'un qui nous accompagne. Il faut un maître, un coach, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais il faut déjà une discipline de vie, ça c'est sûr. C'est une phrase magnifique d'un coach, David Laroche, qui dit... C'est un fantasme de vouloir devenir une nouvelle personne sans faire de nouvelles choses. Elle est magnifique cette phrase, elle est magnifique. Ça demande une discipline quotidienne, je sais pas, chacun, donc, l'autre avec le sport, l'autre chacun, vous faites ce que vous voulez. Chacun, il doit trouver sa voie et l'accompagnement de quelqu'un. Alors, il dit, c'était agréable, le ramadan est une école pour se recentrer sur soi et combattre son ego et faire le point avec son propre caractère. Ramadan plus confinement permet de se recentrer sur soi et faire que nous soyons meilleurs, une halte dans la vie. Ouais. C'est vrai que le ramadan, on est en plein dedans. Hein. Le ramadan, surtout avec le confinement, on est éprouvé, on est forcé d'être sur nous, quoi. D'avoir quand même, je pense, être forcé un peu à avoir le recul sur nous. Alors, on a Dunia qui nous dit, rappeler et apprendre à l'invocation d'Abou Bakr qui disait, protéger votre ego quand il recevait un traitement. Exact. Abou Bakr, c'était le premier calife, la personne la plus proche du prophète, et la personne que le prophète aimait le plus après sa femme. Et c'était considéré comme un grand saint de l'islam. Et donc, il était très, très, très attentif à son ego. Si on voit sa vie, quelqu'un qui était très attentif à son ego et qui était très effacé. On parle de le fana, il a été effacé, il s'est effacé. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, c'était au service de Dieu et du prophète et des gens qui l'entouraient. Il était vraiment, c'était quelqu'un qui était très riche, mais ça l'apportait très très peu, ça l'apportait pas du tout, que son nom soit cité lorsqu'il faisait des dons. Savoir qu'il a donné la totalité de sa richesse au prophète, qui était très pauvre, il a donné tout donné. Il a tout donné. Contrairement à d'autres qui ont donné une partie, c'est normal, mais voilà, à ne pas reproduire, s'il n'y a pas l'état spirituel qui va avec. Lui, il avait l'état spirituel qui va avec, c'est pour ça qu'il l'a fait, mais il a tout donné, absolument tout. Donc Abou Bakr, très très grand personnage. D'ailleurs, Abou Bakr, c'est le pro, il y a deux, on va dire qu'il y a deux grands maîtres qui ont donné naissance aux écoles soufis, aux écoles de spiritualité musulmane, l'islam. Il y a les écoles des Ali, donc toutes les chaînes qui partent de Ali et les chaînes qui partent d'Abou Bakr. Donc les chaînes qui partent d'Abou Bakr, ça va être les écoles qu'on va retrouver plutôt en Orient, en Turquie, en Uzbékistan, en Kazakhstan, Chypre, tout ça, Marjbendia, tout ça. Et à Ali, ça va être plutôt les Khalifas qui vont être dans l'Andalousie, dans le Maghreb, en Égypte aussi un peu. Donc voilà, ça va être les deux grandes. Donc Aboubakar, c'est une référence, hein. Une grande référence. Bonne remarque. Heisenberg. Il est avec nous, Heisenberg. Donc voilà. Écoutez-moi, c'était un plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Il y a des beaux sujets qui arrivent, comme j'ai dit, hein. Il y a des sujets sur les énéagrammes, pour ceux qui connaissent, sur la philosophie. Dans la semaine prochaine, on va traiter aussi un beau sujet. C'est la relation qu'avait le prophète, Mohammed, avec sa femme, Khadija. Bon, on sait que sa femme, elle avait, lui, il avait 25 ans, elle avait 40 ou 45, je m'en rappelle plus. Et, ils avaient une relation très, très spéciale. Vraiment une relation magnifique. Et, on aura un spécialiste de l'histoire de l'Égypte et l'histoire, de la naissance de l'islam qui va venir, un grand spécialiste, et qui va venir nous traiter ça, c'est vraiment magnifique. Les énéagrammes, ouais, je sais pas il y aura combien d'émissions, mais j'aurais aimé faire 9 émissions dessus, pour traiter vraiment les neuf types. Je sais pas si c'est possible avec l'intervenant, mais c'est un intervenant que j'aime bien, c'est top, je l'ai rencontré il y a quelques mois, super. Il y a quoi d'autre sur la langue arabe aussi, il y a un langue arabe qui arrive, notamment le système de prénoms en arabe, le système d'appellation, c'est très très intéressant. Il y a des histoires qui arrivent aussi sur la prise de Jérusalem, sur le règne de Abou, le règne, le califat de Omar, le califat de Omar, l'Andalousie aussi. Donc voilà, il y a des petits thèmes qui arrivent. C'est pour ça, essayez de partager un maximum, parlez-en autour de vous, pour que ça touche un maximum de gens. Et aussi, je rappelle toujours que cette émission sera disponible comme toutes les autres émissions sur le site Ardroyant, rubrique émission radio. Et après, vous écoutez ça en cuisinant, en écoutant, en étant dans le métro, après le déconfinement, en s'endormant, vous faites ce que vous voulez, mais c'est disponible. Mettez vos écouteurs ou l'enceinte et vous écoutez ça tranquillement. Voilà. Donc les émissions, c'est en général, c'est des émissions qui sont... On vulgarise un maximum, donc ça va, faut pas trop se concentrer pour écouter ça, c'est pas très technique, justement c'est voulu, hein. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse tous, ça m'a fait chaud au cœur de partager ça avec vous, partagez un maximum, vraiment partagez au maximum, essayez de partager au maximum, parlez-en autour de vous. Voilà, on a un auditeur qui nous dit, moi j'écoute en étant au travail actuellement, ah bah voilà, on travaille, on écoute en même temps, ça détend, voilà. Super. Bon, mais je vous embrasse. Bon confinement. Et prenez soin de vous. Ciao. De rien.